Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream yet?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Encore? Bah, pas les gars, un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct ou en podcast. Retour dans CinéZoom, l'émission qui vous parle cinéma. Je suis bien sûr en compagnie de mes deux CinéZoomers. Bonjour Pierre.
Bonjour Françoise.
Bonjour Rémi.
Bonjour Françoise.
C'est avec un immense plaisir que nous retrouvons Nicolas dans les studios de Digue Radio. En route pour une nouvelle saison qui sera très riche en événements et rencontres diverses. Alors au sommaire de ce premier CinéZoom, pas de CinéZoom ni de KinoZoom sans cinéma. Il se raconte qu'un nouveau cinéma est en projet à Fontenay-le-Comte. On vous en dit des nouvelles. Sinon, bien évidemment, c'est la reprise du Ciné-Club. C'est le moment de vous en expliquer les quelques principes. Et enfin, pas de CinéZoom sans film. Nous vous présenterons le premier de la saison du Ciné-Club. C'est à la fin du mois de septembre. C'est la magnifique version restaurée du film de Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose. Et en fin d'émission, l'actualité de notre association KinoZoom. CinéZoom, saison 2, c'est parti. Alors Rémi, nous étions présents au Forum des associations de Fontenay-le-Comte le samedi 31 août et un certain nombre de visiteurs nous ont demandé si nous avions des nouvelles du nouveau cinéma. Je crois qu'il est temps qu'on en dise davantage à nos auditeurs, évidemment de sources sûres, bien entendu.
Et en effet, hein, il y aura un nouveau complexe cinématographique à Fontenay-le-Comte. Hein. Ce dernier comportera 5 salles pour un total de 758 places. Hein, c'est plus qu'au Renaissance, hein, qui compte 3 salles et 550 fauteuils. Alors, sa construction sera gérée et financée par le groupe Grand Écran, alors, qui n'est pas, je le précise, hein, l'actuel exploitant du Renaissance, hein, Cinéode. On peut bien entendu s'interroger sur la nécessité de bâtir un nouveau cinéma. Alors il faut dire que le Renaissance, aussi bien entretenu qu'il ait pu l'être, montre tout de même, hein, entre autres, d'importants signes de vétusté et de sérieuses problématiques en termes d'isolation thermique notamment. Il aurait fallu faire des travaux d'envergure. Et si cela a été envisagé à un moment, de même qu'un agrandissement du site, le coût très important d'une part et les contraintes insolubles que cela représentait en termes d'urbanisme, en secteur sauvegardé, d'autre part, ont fait qu'une autre option a été retenue. Et puis il faut dire que l'actuelle Renaissance, bien qu'en centre-ville, demeure quelque peu enclavée, ce qui n'est pas franchement idéal. On peut d'ailleurs se réjouir de la situation du nouveau cinéma qui va se situer place de Verdun, toujours au cœur de ville et visible de tous. Enfin, je précise, c'est important de le dire, que Cinéode continuera d'exploiter le Renaissance jusqu'à sa fermeture, qui coïncidera avec l'ouverture du nouveau complexe.
Alors je reviens sur Grand Écran, c'est donc un groupe qui possède déjà d'autres cinémas.
Tout à fait, hein, c'est son corps de métier, hein, et son siège est basé à Limoges, où il exploite 3 complexes. Il s'est par ailleurs largement développé en Nouvelle-Aquitaine avec 8 sites, et plus récemment dans les Pays de la Loire, avec l'ouverture en juin dernier du cinéma de Montaigu, et celle du cinéma de La Chapelle sur Erdre, au nord de Nantes, qui devrait se faire dans le courant du mois d'octobre. Le cinéma Grand Écran de Fontenay-le-Comte sera ainsi le 14e site exploité par le groupe.
Et en ce qui concerne la programmation, à quoi peut-on s'attendre ?
Alors la ligne éditoriale généraliste du Renaissance sera amplifiée et le classement art et essai a pour ambition d'être conservé, hein. De même que l'ensemble des activités de KinoZoom, Ciné-Club et Festival en tête. Aussi, dans la mesure où le cinéma comportera 2 salles supplémentaires par rapport au Renaissance, nous pouvons légitimement nous attendre à une plus grande diversité et des films maintenus à l'affiche un peu plus longtemps. En tout cas, c'est certain, il y en aura pour tout le monde.
Très bien. Et alors, quand ce nouveau complexe s'ouvrira-t-il ?
Alors, à ce jour, l'ouverture du site est prévue pour le dernier trimestre 2025, ce qui ferait donc que... Et là, j'enchaîne sans transition. La prochaine et 13e édition du Festival du film de Fontenay-le-Comte serait la dernière au cinéma de Renaissance, avant de connaître un nouveau souffle au cinéma grand écran.
Alors le directeur du Festival de Fontenay-le-Comte va-t-il en dire un mot de ce festival ?
Alors, Pierre, François, je vous propose qu'on garde encore un petit peu la surprise hein, pour le thème que nous avons retenu et la programmation que nous sommes d'ores et déjà en train de travailler d'arrache-pied. Et cela étant dit, vous pouvez sortir vos agendas et noter les dates. Le festival se tiendra du 16 au 23 mars 2025.
C'est noté pour le festival. Alors, quant au cinéma grand écran, effectivement, on peut penser que ce nouveau complexe va donner un nouveau souffle cinématographique à Fontenay-le-Comte. De mieux pour démarrer la saison que cette composition de Georges Delerue pour le film de Jean-Luc Godard, Le Mépris. C'est sans doute l'une des plus incontournables de toutes les bandes originales des films programmés cette saison au Ciné Club, mais disons-le, en tout cas c'est mon avis, c'est peut-être l'une des plus iconiques de toute l'histoire du cinéma. C'est d'ailleurs cette musique que Rémi a choisie pour réaliser la bande-annonce du Ciné-Club, que je vous invite vivement à découvrir sur le site de KinoZoom, sur nos réseaux sociaux ou bien sur le grand écran oui, des salles de cinéma, puisqu'elle est diffusée actuellement avant chaque film. Quitte à aborder le Ciné-Club dans une partie dédiée, pourquoi ne pas en proposer un bref historique, Rémi ?
Et oui, car il faut rappeler la grande importance des Ciné-Clubs en France. L'appellation Ciné-Club, on la doit à Louis Deluc en 1920. C'est un grand homme de cinéma, critique, réalisateur à ses heures aussi, qui a même donné son nom au fameux prix Louis Deluc, une sorte de prix Goncourt du cinéma. Il voulait, au travers des projections de films, légitimer le cinéma comme pratique culturelle, artistique, affirmée par tous les moyens, le caractère artistique du cinéma. Autrement dit, c'est un projet des plus nobles et des plus ambitieux auquel s'est greffé un autre, celui de la lutte contre la censure. Par exemple, le Ciné-Club de France, né en 1924, a programmé le cuirassé de Potemkin d'Eisenstein, alors interdit. S'ensuit au fil des ans la création de très nombreux ciné-clubs de spectateurs disséminés sur l'ensemble du territoire français, la création de revues spécialisées. En clair, si le cinéma a tant d'importance en France, c'est évidemment lié à cette histoire des ciné-clubs.
Alors revenons à notre ciné-club à nous, il s'inscrit donc logiquement dans cet héritage.
Et dans une certaine mesure, oui, hein, évidemment. Le principe d'un ciné-club a beaucoup évolué et chaque association s'en empare, lui donne sa couleur. Hein. Évidemment, il n'est plus question de légitimité le cinéma comme un art, hein, c'est acquis. Pour autant, la principale idée du ciné-club Renaissance, lors de sa création, qui s'est faite en 2011 en collaboration à l'époque avec l'Université du Temps Libre, était de proposer à la fois de grands films, cultes, mais aussi des films plus confidentiels, avec cependant de grandes qualités cinématographiques. Surtout, nous avons toujours eu à cœur de donner le goût du cinéma aux spectateurs, de l'éclairer et de dialoguer avec lui. C'est pourquoi ces séances sont systématiquement accompagnées de commentaires et de discussions encadrées par certains de nos membres. Et c'est un petit travail en soi, hein, dans la mesure où il faut être assez pédagogue, dénicher les petites informations que les spectateurs avisés ne connaîtraient pas, et donner aussi l'envie d'aller plus loin dans la filmographie du cinéaste présenté. Il est important de préciser que ces séances sont accessibles à toutes, celles et ceux qui souhaitent y assister. Pas uniquement les adhérents de KinoZoom, hein, bien que ceux-ci bénéficient de tarifs préférentiels. Le Ciné-Club est donc un club ouvert à tous les amis du cinéma, qu'ils soient cinéphiles ou non.
Alors assez souvent, on nous demande pourquoi on ne passe pas tel film plus récent ou tel film méconnu. Rémi, explique-nous qui Akinozoom construit un programme et quelles sont nos contraintes.
Alors nous avons une petite commission de personnes qui réunit quelques passionnés pour une ou deux réunions de programmation par an. Alors chacun arrive avec ses envies et défend ses choix, c'est parfois assez musclé, hein, vous en conviendrez, mais il faut bien faire des choix. Et nous nous assurons ensuite auprès de notre partenaire Cinéote de la disponibilité des films.
Alors cela signifie donc, hein, en clair, qu'on ne peut pas programmer ce que l'on veut.
Et oui, en effet, ce n'est pas parce qu'un film est disponible en DVD ou que vous avez pu le voir à la télévision qu'il sera forcément diffusable en salle de cinéma. Chaque canal de diffusion a sa spécificité et les droits de diffusion d'un film en salle sont gérés par des distributeurs de films. Par exemple, pour la France, Gaumont, Pathé, je cite les plus gros, mais il y a des dizaines et des dizaines de distributeurs. À titre d'exemple, les droits du film Le Nom de la Rose, que nous diffusons pour inaugurer la nouvelle saison du Ciné-Club, ont été bloqués pendant plusieurs années par des ayants droit, ce qui rendait impossible son exploitation en salle de cinéma. Mais l'histoire se termine bien car le problème a été réglé et la copie du film restaurée. La question des copies peut aussi être un problème, car parfois elles n'existent plus, sont en très mauvais état ou n'ont pas été restaurées. Bref, les distributeurs nous autorisent donc à diffuser les films, nous envoient la copie et les recettes sont partagées entre l'exploitant et le distributeur. Une partie des recettes est également reversée au CNC, qui redistribue notamment ses fonds dans le cadre d'aides attribuées à des sociétés de production pour la réalisation de films. Si je dis ça, c'est pour expliquer un peu le principe très vertueux du système et qui permet quand on va voir un film en salle, même un film de patrimoine, eh bien on aide aussi à la création des films de demain.
Alors je propose maintenant qu'on aborde notre programmation à nous. Alors Pierre, explique-nous quels sont nos grands principes.
Eh bien pour constituer le programme du Ciné-Club, on s'appuie sur plusieurs éléments, on essaie de ne pas oublier les grands principes. Premier grand principe, c'est d'essayer de proposer un programme varié. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des réalisateurs différents, dans des genres différents, sur des thèmes différents, avec des nationalités différentes. Donc il faut réussir à équilibrer tout ça. Il faut des films français, il faut des films américains, il faut des films d'autres nationalités, il faut un peu de tout. Il faut aussi équilibrer par rapport à notre public, puisque Fontenay-le-Comte, c'est une ville de 15 000 habitants. Dans cette ville de 15 000 habitants, mais comme partout ailleurs, la culture cinéphilique a tendance à se perdre. C'est-à-dire qu'on constate que, de plus en plus, les grands classiques ne sont plus autant vus qu'avant, ne sont plus autant connus qu'avant. Je pense qu'il est difficile de se passer d'une certaine connaissance de ces grands classiques. Donc il faut aller les chercher, il faut les proposer. C'est ce qu'on appelle les films du patrimoine. Donc ces grands films classiques dont les noms peuvent dire quelque chose, mais que les gens n'ont plus forcément vu. Alors que peut-être que dans les années 50-60, la culture cinéphilique était très différente. Il n'y avait pas encore la télévision. Et à cette époque-là, les gens avaient une culture cinéphilique bien supérieure. Ils allaient beaucoup plus au cinéma.
Donc oui, on en a encore quelques-uns qui sont comme tu les décris, mais effectivement, ils sont moins nombreux.
C'est ça. On a encore des grands cinéphiles, bien sûr, mais on a aussi beaucoup de public qui n'est pas aussi cinéphile pointilleux, quoi. Donc il faut pouvoir reproposer sans arrêt, évidemment, ces films du patrimoine pour entretenir la culture cinéphile et les proposer sur grand écran.
Oui, d'ailleurs, tu précises grand écran, c'est vrai que c'est important, parce que finalement, les films, l'offre est vraiment présente sur les plateformes, Netflix et consorts. On retrouve plein de films de patrimoine. En fait, on peut trouver énormément de films, mais qui ne sont pas forcément accompagnés. L'offre est telle que les gens vont aller sur les plateformes et sans savoir quoi choisir.
Oui, on peut se noyer sur l'offre.
Et c'est vrai que le Ciné-Club permet aussi un enrobage et de mettre les films en valeur et surtout en salle.
Ensuite, dans l'aspect varié de ce qu'on propose, alors c'est des films anciens, mais il y a des films qui sont plus récents quand même. Alors c'est pas des films très récents, mais le plus récent qu'on propose cette année, il est de 1999. Donc vous voyez, il a 25 ans.
Eyes Wide Shut,
voilà, de Kubrick. Donc cette année, on va de 1948 à 1999. Voilà. Et on s'aperçoit qu'assez souvent quand même, on met des films des années 90. Pour les non-cinéphiles, c'est peut-être très ancien, mais pour moi, c'est très récent, quoi. Donc malgré tout, on va vers des films qui sont pas si vieux que ça. Je veux dire, c'est une manière de tourner dans les années 90 qui n'a pas radicalement changé par rapport à aujourd'hui, alors qu'on tournait dans les années 60-70 de façon très différente. Donc au niveau de la de l'humeur des films, de la teneur du film, c'est très semblable à aujourd'hui. Donc dans ce sens-là, c'est des films assez récents. Voilà. Et puis comme je disais, 15 000 habitants, il y a donc des cinéphiles, des non-cinéphiles, il y a des plus âgés, des plus jeunes. Il faut réussir à parler à tout le monde. Il ne faut pas faire des films confidentiels qui restreignent le public.
Oui, oui, c'est vrai que quand on regarde les têtes dans les salles de nos projections, hein, il y a des têtes grises et puis des têtes blondes, effectivement.
C'est ça. Et 15 000 habitants à Fontenay, on ne peut pas avoir le même raisonnement qu'une très grande ville. Une très grande ville, je sais pas, comme Nantes, par exemple, peut faire un ciné-club beaucoup plus confidentiel en ne visant qu'un certain type de public. Nous, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le réservoir de public pour ça.
Si on regarde bien le programme, hein, on trouve aussi quatre films qui ont une particularité. Ce sont des films choisis en partenariat avec l'atelier cinéma du Collège Tiraco. Quatre films estampillés jeunesse, pourrait-on dire. Alors, on va peut-être les citer ou pas. Pierre, qu'est-ce que tu en dis de ces
Oui, alors, donc, ces quatre films qui sont projetés, c'est le mercredi après-midi, à 18h. Bah, cette année, on propose Le voleur de bicyclette, Rio Bravo, Où est la maison de mon ami et 12 hommes en colère. Alors, ces quatre films ne sont pas destinés aux jeunes, je pense. Je pense, par contre, qu'ils ont une sensibilité ou une tonalité qui peuvent toucher les jeunes. Voilà. Mmh. Si on prend l'exemple de Où est la maison de mon ami, qui est un film qui n'est pas très très connu, c'est un film extraordinaire sur l'histoire d'un enfant. Évidemment, les adultes vont les spectateurs adultes seront touchés, mais les spectateurs enfants aussi, de façon extraordinaire, sont pris par ce film.
Oui, vraiment. Voilà, pour le coup, un film, je pense, méconnu et qui gagne à être connu. Voilà. Très bien. Et puis, une autre particularité de cette programmation, pour la troisième année, on termine la saison avec un cycle consacré à un réalisateur.
Oui, on s'aperçoit que ça marche bien, on a des très bons retours publics et c'est très intéressant aussi de voir comme ça dans la foulée trois films d'un même réalisateur. Donc c'était Almodovar il y a deux ans, les frères Cohen l'année dernière et cette année c'est un cycle sur Stanley Kubrick qu'on vous propose, donc avec trois films. 2001, l'Odyssée de l'espace, évidemment. 2001, Full Metal Jacket et puis Eyes Wide Shut, on en parlait tout à l'heure, donc un espèce de triplé qui permet d'avoir un certain regard sur l'œuvre de Kubrick.
Et bien justement, maintenant, de quoi nous réjouir l'oreille avec cette chanson incluse dans Full Metal Jacket. Il faut dire qu'avec ce film, on avait le choix. On marque une pause avec Nancy Sinatra.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Start walking.
Alors vous qui nous écoutez, vous vous dites peut-être, mais pourquoi venir aux séances du Ciné-Club ? Alors Pierre et Rémi, je vous propose tout simplement d'énumérer, de résumer 10 raisons de venir. Rémi.
On va se partager ça, Pierre, effectivement, je vais donner 5 raisons. Allez, la première pour soutenir un cinéma indépendant, d'auteur, d'art et essai. La deuxième, pour profiter d'une qualité de projection irremplaçable, dans les conditions optimales, une expérience immersive. Cela va bien au-delà d'un simple visionnage. On a le grand écran, la ressortie de films en version 4K ou restaurée, pour voir les films vraiment au mieux, dans les meilleures conditions. Troisième raison, eh bien pour partager avec d'autres un certain goût du cinéma, discuter, débattre avec d'autres passionnés, faire partie d'une communauté, créer des liens. Voilà, c'est une des raisons. La quatrième, pour profiter de présentations et de débats animés par des passionnés. La cinquième, pour partager un moment de convivialité. Nos séances se terminent toujours par un petit pot très, très joyeux.
Du moins le vendredi soir.
Voilà. Et Pierre, je te laisse enchaîner.
Oui, d'autres raisons d'aller au Ciné-Club, pour enrichir sa culture, pour combler ses lacunes. On disait tout à l'heure qu'il y avait une offre énorme, donc ça permet de délabyrinther l'offre et de retenir un échantillon de films. Septième bonne raison, c'est pour découvrir des films méconnus. Où est la maison de mon ami, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure. Huitième bonne raison, c'est pour aiguiser son regard. Il n'y a pas 36 solutions, il faut voir des films. Neuvième raison pour les jeunes, c'est découvrir un autre cinéma que celui qu'ils connaissent et qu'ils pratiquent, notamment via les plateformes.
Et alors, j'ai introduit la dixième. Je crois que cette dernière motivation te tient particulièrement à cœur.
Oui, c'est qu'on peut aller au Ciné-Club pour revoir un film.
Alors, pourquoi revoir un film ?
Eh bien, parce que revoir un film, c'est le voir différemment. Revoir un film, c'est faire habiter dans son esprit. Enfin, il faut que le film habite et vive et survive et continue de se développer dans l'esprit. Et beaucoup de critiques et de réalisateurs expliquent l'importance que ça a de voir sans cesse, de revoir des films. Truffaut a une phrase extraordinaire à propos de la règle du jeu de Renoir. Évidemment, il le voyait régulièrement. Il disait « Je vais revenir demain au cinéma voir le film. Je vais revenir demain pour voir si les choses se passent de la même façon. » Et ça dit énormément de choses de la richesse infinie de ce film qu'on peut voir et revoir sans cesse pour vérifier s'il s'y passe toujours la même chose, pour constater la multiplicité du film qui est une composition extraordinaire. Chabrol disait de la règle du jeu qu'il l'avait vu une centaine de fois. C'est fou de se dire ça, la manière dont le film est une base à tout le travail du réalisateur derrière et à tout son regard sur l'œuvre d'art. Et ça rejoint, je pense, aussi l'approche qu'on peut avoir avec d'autres arts. Il y a le critique de peinture Daniel Arras, enfin, l'historien, qui disait « Quand on regarde un tableau, il faut beaucoup de temps pour que le tableau se lève et s'adresse à vous. » Il faut rester des heures, disait-il, devant une peinture pour commencer à la comprendre. Eh bien, je pense que le cinéma, il faut voir et revoir des œuvres si on veut que l'œuvre s'adresse à nous, si on veut qu'on la comprenne. Et il y a, on projette notamment cette année L'Armée des 12 singes. Et on a le personnage qui est joué par Bruce Willis dans L'Armée des 12 singes. Ils vont voir Vertigo à un moment donné, Hitchcock. Et Bruce Willis nous dit... À propos de Vertigo, à chaque vision, on est différent, donc on voit le film différemment. Donc ça aussi, c'est très important. On revoit un film à différents moments de sa vie et on le voit autrement parce qu'on est différent. On a une expérience de la vie différente, on a vu d'autres films, d'autres arts. Enfin voilà, on a un esprit différent, donc on le voit différemment. Je pense que ça fait beaucoup de raisons de revoir un film. C'est pas parce qu'on l'a déjà vu qu'il faut, bien au contraire, qu'il ne faut pas aller le revoir. Il faut revoir les films, bien sûr.
Oui, parce qu'enfin, on n'est pas le même. On n'est jamais le même quand on revoit un film. On a vieilli, par exemple. Bien. Une ultime raison, peut-être, de venir au Ciné-Club, eh bien, c'est peut-être pour cette année assez particulier. Je vous propose tout simplement de soutenir le Ciné-Club cette saison à Fontenay-le-Comte, plus que jamais. Sans doute pour que continue de vivre le Ciné-Club dans le nouveau cinéma.
On behalf of the Benedictine Order, I am honored to welcome you and your Franciscan brothers. Should we tell him?
I don't like this place.
Really?
I find it more stimulating. This one, I grant you, did not commit suicide.
This abbey is enshrouded in a terrifying mystery.
Which was the Greek translator's desk?
You invited me to investigate the presence of the evil one in your abbey. And I have already found it.
The only evidence I see of the devil is everyone's desire to see him black.
Other monks will meet their deaths here, and they also will have blackened fingers and blackened tongues.
It is the truth, and I am right.
William is right. William is always right.
Do you think that this is a place abandoned by God?
Have you ever known a place where God would have felt at home?
Vous aurez peut-être reconnu la bande-annonce du film Le Nom de la Rose avec le petit tintement récurrent de la clochette dans une composition de James Horner. Alors c'est le premier film de la saison et pas n'importe lequel. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a choisi de commencer la saison avec ce film ?
C'est un film qu'on est très content de pouvoir projeter parce qu'il est resté très longtemps invisible. Il est ressorti au mois de février dernier dans une très très belle version, Jean-Jacques Hano lui-même le dit. Il retrouve dans cette version restaurée la qualité du négatif qu'il avait à l'origine, au moment du tournage. Donc il y a eu des histoires d'ayant droit et donc il y a maintenant une possibilité et une restauration. Donc c'est très très beau. Et il faut noter qu'il y a plusieurs pays où le film n'est toujours pas visible en Europe. Donc profitons de cette chance. L'autre raison de ce choix, c'est que Le Nom de la Rose est vraiment, pour nous, quand on construit notre programme, un film du milieu. Un film du milieu, c'est-à-dire que c'est ni un film qui est industriel, sans beaucoup de saveur, qui est un film de série un petit peu, ou banal. Et ce n'est pas non plus un film très confidentiel, d'auteur, abscon, qui serait réservé à une élite cinéphilique. Pas du tout. Le Nom de la Rose, il est dans un entre-deux très très intéressant et remarquable. C'est un film de très grande qualité et qui n'est pas du tout confidentiel. Et il faut dire, mais on va peut-être en parler, que Le Nom de la Rose, le roman, lui aussi, est très surprenant puisqu'il semble extrêmement ardu. Et en fait, il a été lu par énormément de monde et il n'est pas du tout si confidentiel que ça. On est vraiment dans une littérature du milieu et dans un cinéma du milieu.
Oui, tout à fait. Alors Rémi, une petite parenthèse biographique. Quelques mots sur Jean-Jacques Hano.
Et oui, car avant de signer donc le Nom de la Rose, ainsi que, voilà, je vais citer un petit peu dans le désordre les quelques films de sa filmographie, donc La Guerre du Feu, L'Ours, L'Amant, adapté de Duras, Sept ans au Tibet, Stalingrad, Deux Frères, Sa Majesté Mineure, Or Noir, Le Dernier Loup, et enfin Notre-Dame Brûle, qui était sorti en 2022. Voilà, Jean-Jacques Hano a, comme tout à chacun, été un enfant. Et il est né donc en 1943, en banlieue sud de Paris, a grandi à Draveil, où il fréquente assidûment, en compagnie de ses parents, le Draveil Palace, un beau cinéma de 300 places, aujourd'hui disparu, et où il s'émerveille devant un grand nombre de films dans tous les genres. Alors, malgré son jeune âge, Hano est aussi très attiré et curieux de la technique, si bien qu'un jour, il fait part de son ambition à sa mère, comme il le raconte à l'occasion d'une masterclass animée par Pascal Mérigeau au Forum des Images en 2012.
Ma maman avait été secrétaire dans une boutique qui s'appelait Odéon Photo, et on recevait le catalogue tous les ans. Et alors forcément, moi qui étais gamin, j'ouvrais ces pages, et je voyais ces appareils merveilleux, en particulier à la fin, il y avait toutes ces caméras. Je lui ai dit, maman, je sais ce que je veux faire quand je serai grand, je veux faire du cinéma. Elle a téléphoné à quelques-unes de ses amies qui ont dit, oh ben quel dommage, un si bon élève. Et il y avait le numéro de l'IDEC. Et j'ai donc maintenant 8 ans et demi, je me souviens, je suis en culotte courte, et j'ai des sockets, mais il y en avait une qui tombait tout le temps. Et il y a ma mère, il y a le directeur de l'IDEC, et qui dit à ma mère, alors, ah bon, votre fille veut faire du cinéma, il est à quel niveau? Elle se tourne vers moi, il dit, il est en CM1. Et alors ma mère prend en sténo tout ce qu'il faut faire. J'ai fait exactement comme il avait dit M. Tessonneau, c'était son nom. J'ai fait A', j'ai intégré l'école de Vaugirard, j'avais 17 ans. Et puis après, comme mon père est tombé malade, il n'y avait plus de sous à la maison, je suis allé revoir le directeur de l'IDEC en lui disant que je voulais rentrer à l'IDEC, mais je ne pouvais pas faire les trois années, il fallait que je fasse seulement la dernière. Alors il m'a posé des conditions épouvantables, il m'a dit, ben, écoutez, c'est possible, si vous avez mention bien à votre diplôme de sortie de Vaugirard, si vous me faites un court-métrage de 30 minutes en 35 mm, et si vous avez deux certificats de licence, parce que je faisais à la Sorbonne différents certificats de licence, et je suis arrivé en fin d'année, tout à fait triomphant, avec ma mention bien, mon court-métrage, qui s'appelait « Les sept péchés capitaux du cinéaste », je vous rassure, je les ai faits tous. Et ensuite, deux certificats de licence. Donc j'ai intégré l'IDEC en dernière année, je suis diplômé de l'IDEC, et je suis sorti de tout ça, j'avais donc 19 ans et demi.
Peut-on dire que c'est un bourreau de travail, Rémi ?
Tout à fait. Alors, je précise, hein, il mentionne l'IDEC et Vaugirard. Donc, l'IDEC, maintenant, c'est la FEMIS. Et Vaugirard, c'est l'école Lulu Lumière, hein, qui existe toujours et qui sont de grandes écoles de cinéma publiques renommées. Et donc, ouais, un bourreau de travail, hein, tout à fait déterminé aussi. Hein, ce sont des traits de caractère qui vont le suivre toute sa carrière et sans doute lui servir. Hein. Parlant du début de sa carrière, est-ce que vous saviez, Pierre-Françoise, qu'il avait remporté, peu de temps après la fin de son cursus scolaire, une palme d'or ?
Oui, ce n'est pas rien. Tu vas nous dire quel film ? Avec quel film ?
Eh bien, c'était Crackers Belin.
Et en effet, c'est surprenant, oui.
Et tout à fait. En fait, il s'agissait d'un film publicitaire, voilà, assez gros budget. Et oui, parce que Cannes récompensait à l'époque les films publicitaires, et c'est dans ce milieu qu'Anneau a fait ses armes à la suite de sa rencontre avec Jean Mineur. Ça évoquera certainement quelque chose pour les spectateurs. On retrouve toujours les pubs de Jean Mineur, hein, devant les films au cinéma aujourd'hui. Hein. Et donc Jean Mineur qui lui accorde peu à peu toute sa confiance, hein, et les presque plein pouvoir. Donc il tournera ainsi des dizaines et des dizaines de spots publicitaires, tantôt ingénieux, drôles, sophistiqués. Voilà, pendant vraiment plusieurs années, hein, il sait y faire, il est très sollicité. Et il passe par toutes sortes de choses à promouvoir.
Et alors après ?
Et donc, au bout de tant d'années à travailler dans la publicité, hein, il va s'arrêter un petit peu. Il reprendra. Hein, c'est un peu son assurance chômage, comme il le dit. Mais voilà, la lassitude se fait sentir et les envies de faire du cinéma irrépressibles. Et donc, c'est par l'intermédiaire de François Truffaut, hein, qui apprécie son travail, qu'il rencontre Claude Berry. Donc, ce dernier lui permettra de réaliser son premier long métrage de fiction au cinéma, La Victoire en chantant. Une parabole particulièrement caustique sur le colonialisme qui s'avérera ne pas être un très grand succès commercial, mais qui lui permettra tout de même d'obtenir l'Oscar du meilleur film étranger aux États-Unis, où le film portera un autre titre, Black and White in Color. Il y aura également une ressortie en France suite à cette récompense. Alors forcément, cela ouvre quelques portes, hein, et sa carrière de cinéaste va ainsi pouvoir se dérouler entre projets parfois particulièrement ambitieux, coûteux, voire même risqués, et d'autres projets plus confidentiels, mais toujours très différents, qu'il s'agisse du sujet ou du traitement pour lequel opte Jean-Jacques Anneau.
Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Arrivé au terme de ma vie de pêcheur, tandis que désormais retenu par mon corps lourd et malade dans cette cellule de mon cher monastère de Melk, je m'apprête à laisser témoignage des événements admirables et terribles auxquels il me fut donné d'assister. Que le Seigneur m'accorde la grâce d'être le témoin transparent des événements qui eurent lieu à l'abbaye, dont il est bon et charitable de taire même le nom désormais, vers la fin de l'année du Seigneur 1327. Alors Pierre, c'est par ce fameux incipit que s'ouvre le livre.
Et oui, nous sommes en 1327, et nous sommes dans un monastère bénédictin dans le nord de l'Italie. Et lorsque le film s'ouvre, il y a déjà eu plusieurs morts dans ce monastère, et c'est de la peur et du mystère qui règnent. Et la musique laisse entendre cette atmosphère. Et il y a une réunion, c'est un thème théologique qui se greffe par-dessus cette ambiance de mystère. Il y a une réunion théologique avec des franciscains qui doit avoir lieu. Et parmi ces franciscains arrive un moine qui s'appelle Guillaume de Baskerville, tenu de façon extraordinaire par Sean Connery, qui va mener l'enquête. Voilà l'idée force du roman et l'idée, évidemment, force du film, qui nous plonge dans une époque, au XIVe siècle, dans une atmosphère, on est dans un monastère, et le film nous emmène très très loin du fauteuil et de la salle de cinéma, c'est extraordinaire.
On dit souvent que c'est une prouesse que d'avoir réussi à adapter un tel roman hors norme. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, le roman est assez extraordinaire par sa densité, par la richesse de tous les thèmes qu'il arrive à traiter. C'est vrai qu'il y a des débats théologiques assez aboutis. Il y a des pages, pas des pages, mais des paragraphes entiers en latin. Donc, ça fait assez austère ou assez complexe. Bon, pourtant, je pense pas. On dit souvent ça, Anno aussi le dit, que c'est un roman hors norme et très difficile à adapter. Alors, moi, je trouve pas qu'il soit très difficile à adapter au cinéma. Alors j'en veux pour preuve qu'il a été immédiatement adapté, il n'y a pas eu de délai. Dès que Anno l'a lu, il s'est jeté, il a fait tout ce qu'il a pu pour obtenir les droits qui étaient déjà achetés, enfin, donc, tout le monde s'est battu pour l'adapter, donc ça veut dire que manifestement il y avait quelque chose à faire avec ce livre.
Oui, il a mis du temps quand même à en écrire le scénario.
Alors après il y a eu une période d'adaptation, mais il y a des romans qui ont une espèce de réputation d'être impossible à adapter. Il y a le Festin nu de Burroughs qui a eu longtemps cette réputation, et Cronenberg a fini par en faire une version plus de 30 ans après. Il y a les extraordinaires romans Ubique de Philip K. Dick. Philip K. Dick qui a souvent été un auteur de science-fiction qui a été adapté avec Blade Runner ou Minority Report. Ubique, c'est inadaptable. Je vois pas trop comment on peut faire un film avec Ubique. Bon, le nom de la rose, oui. Et même si on reste chez Umberto Eco, il y a le Pendule de Foucault, donc qui sera le roman d'après, le second roman d'Umberto Eco, qui est encore beaucoup plus foisonnant, qui est encore beaucoup plus complexe. Et le réécrire en scénario pour le cinéma, ça sera difficile, parce que c'est une espèce de mécanique très très complexe. Et si on la simplifie, la mécanique tombe à l'eau. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres romans qui sont, à mon avis, très difficiles à adapter. Et Le Nom de la Rose, qui est un roman très très lourd et très adaptable. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il a été très bien adapté.
Oui. De toute façon, on va revenir à ce lien qui unit les deux, le roman et le film. Alors, on va peut-être parler du titre maintenant, Le Nom de la Rose. C'est un titre qui n'en finit pas d'intriguer le lecteur comme le spectateur. Et je vous propose maintenant d'écouter les explications que Jean-Jacques Anno a données lui-même au sujet de ce titre à l'occasion de la présentation de la copie restaurée du film qu'il a faite au cinéma Le Champeau à Paris en février 2024.
D'abord, ce livre, c'était une série de cours que Umberto donnait à Bologne. Et pour distraire ses élèves, qui étaient brillantissimes, Umberto était un grand fan de bandes dessinées, de films de série B, etc. Et il avait imaginé, pour intéresser ses élèves à finalement ce qui est une querelle entre l'idée socialiste et l'idée capitaliste, puisque les bénédictins, eux, ont amassé des richesses, et les franciscains, eux, ont décidé, au contraire, de vivre pieds nus et dans une robe de bure non teintée. Et donc Umberto réunit ces trucs, ces cours, et les donne à son éditeur, qui lui dit: comment tu veux appeler ça? Il dit: on va appeler ça L'Abbaye. Oh, l'éditeur lui dit: non, c'est trop nul, L'Abbaye. Bon. Alors, donc, il revient voir son éditeur, Bompiani, trois semaines plus tard. Il dit: j'ai trouvé, on va appeler ça La Bibliothèque. Oh. Bon. Il revient trois semaines plus tard, il dit: j'ai trouvé le titre, ça s'appelle Le Nom de la Rose. L'éditeur dit: mais pourquoi? Parce que Stade Précité la Rose a nominé, nous datum nous tenemus. Et l'éditeur dit: ah oui, d'accord. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? De la rose ancienne, c'est un problème ça vient d'un poème français en latin, un peu à la Ronsard, si vous voulez. C'est grosso modo: de la rose ancienne, il ne reste rien que le nom nu. Donc c'est une idée de sémioticien, c'est-à-dire que le concept est plus fort que la chose. Mais bon, voilà. Mais si vous voulez...
Et ça fait des millions d'entrées.
Oui, voilà. Voilà, non, en fait, vous savez, le titre, c'est... très souvent trompeur ou ça dit trop de choses. Là, au moins, celui-là reste mystérieux. C'est un film où il y a du mystère et il y a quelque chose d'inexplicable d'une certaine manière et un parfum, effectivement, un parfum du passé dont il reste le témoignage. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça un palimpseste. Qu'est-ce que c'est un palimpseste ? C'est que autrefois les livres étaient faits en peau, en velin, ou en peau de veau ou en peau d'estomac de fœtus de veau. Ça, c'est vraiment une chose très fine. Mais ça coûtait beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand un texte devenait illisible, on le grattait, on le gommait, si vous voulez, on le grattait, et on recopiait un autre texte dessus. Mais il restait toujours le texte ancien, qu'on vous voyait un petit peu. Et c'est ce que j'ai voulu dire. J'ai fait un film où le texte ancien réapparaît en pointillé. Voilà, c'était un petit peu compliqué, mais enfin, et ça a beaucoup plu à Umberto, sauf que j'aurais dû dire sur un palimpseste, et non pas un palimpseste, enfin, c'est un autre débat que j'ai eu avec Umberto.
Alors, bon, je ne vais pas reprendre mot pour mot ce que dit Jean-Jacques Haneau, mais effectivement, de cet extrait, on peut retenir deux principales idées. La première, c'est que il insiste bien sur le côté mystérieux du titre, et c'est sans doute ce qui a motivé d'abord Umberto Eco, hein, de comprendre ce titre de plusieurs façons possibles. Alors il y a l'allusion effectivement à cette citation d'un poète du XIIe siècle, cette citation latine, faut-il que je la dise ? Eh bien oui, pourquoi pas. Stat rosa pristina nomine, dit-il, hein, nomina nuda tenemus, et cela signifie « La rose d'autrefois résiste par son nom, nous ne conservons que des noms vides ou des noms nus ». Alors il peut être fait ici à l'allusion au parcours initiatique d'Alzo dans le roman qui finalement connaît bibliquement la femme aimée puis y renoncera, donc c'est une première interprétation. Une autre possible, c'est l'allusion au fait que finalement tout serait signifiant, autrement dit derrière les choses apparentes il y aurait des choses cachées. Il ne faut pas oublier qu'Umberto Eco était professeur de sémiotique. Et puis Haneau insiste sur son projet, hein. Il avertit le spectateur au début du film, il est écrit « Ceci est un palimpseste du roman d'Umberto Eco ». Autrement dit, il ne prétendrait pas faire une adaptation du roman, ni même raconter la même histoire, mais juste la prendre comme support pour réécrire une autre histoire, créer une autre œuvre. Alors Pierre, il faut que tu nous dises ce que tu penses de cette idée de palimpseste. Est-elle géniale? Est-elle originale selon toi?
Je pense que Haneau a trouvé un très beau mot pour dire quelque chose d'assez commun. Enfin, voilà. Lorsque l'on part d'un roman pour en faire un film, ben oui, on fait une autre œuvre, on fait une autre histoire. Forcément, ce n'est pas le même médium. On passe de l'écriture au cinéma. Donc forcément, ce n'est pas la même œuvre. Quelque part, ça n'a rien à voir. Donc toutes les adaptations, j'ai envie de dire, qui partent d'un roman et qui vont vers du cinéma, ce sont des palimpsestes. Oui. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait une originalité d'Haneau. Il y a une originalité dans le nom. Il a trouvé un nom très très beau pour dire ça. Puis en plus, son nom, il fait un petit peu médiéval. Je pense que ça a bien plu, hein, l'idée à Umberto Eco.
Oui, ça a plu Umberto Eco d'abord.
Ah, forcément, voilà. Oui. Mais après, c'est, je pense qu'un palimpseste au sens strict, ce serait dans le même médium, c'est-à-dire réécrire un roman. Je ne sais pas, moi. Est-ce que Vendredi ou La vie sauvage de Tournier, ce n'est pas un palimpseste de Faux, de Robinson Crusoe? Ou est-ce que, alors là, il faut voir, il y a des réécritures pour les adolescents de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, qui sont réduits en 300 pages au lieu de 1000 pages. Ça, c'est des palimpsestes. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais faire un film à partir d'un roman,
au cinéma,
c'est pas si c'est un palimpseste.
Au cinéma, je pense à Psychose, au Psycho de Gus Van Sant.
Oui, c'est tout à fait, je pense, parce qu'on reste dans le même médium.
Après, c'est peut-être aussi pour stopper les critiques, parce qu'on dit souvent oui. « Oh là là, mais je préfère le roman, ceci, ce n'est pas pareil que... » Voilà, c'est clair, effectivement, ce n'est pas pareil que le roman. Et...
Oui, mais ça va sans dire, me semble-t-il, tout le temps. Quoi.
Oui,
récemment, il y a eu
mais c'est une critique qu'on peut entendre des spectateurs, des fois.
Le Comte de Monte Cristo, forcément, c'est un palimpseste. Je veux dire, Dumas, l'œuvre fait 3000 pages, elle est beaucoup plus dense que le film. Mais la question ne se pose pas. Évidemment, on est obligé de simplifier, d'en faire autre chose. Oui. Cette autre chose, il y a un mot plus joli pour le dire, c'est le mot palimpseste.
Oui, je pense que c'était une façon d'anticiper les critiques éventuelles. Oui. Ouais.
D'Amadou et Umberto Eco.
Oui, aussi, et les spectateurs. Alors Rémi, parle-nous un petit peu de la réalisation elle-même et de la méthode de Jean-Jacques Haneau.
Alors Haneau est un acharné, hein, il est très attaché aux détails hein, pour rentrer dans l'histoire de ses personnages, enfin le spectateur. Voilà, il faut qu'il croie ce qu'il voit, qu'il puisse s'immerger dans l'univers hein, sans être contraint d'en sortir par telle ou telle incohérence. Et donc c'est ainsi que pour Le Nom de la Rose, Haneau s'est beaucoup documenté, hein, comme souvent pour ses films. Il s'est entouré de nombreux médiévistes, hein, sous la direction de Jacques Le Goff notamment. Et cela à la fois donc pour aiguiller son scénario, mais aussi sa mise en scène, la création des décors, la fabrication des objets de la vie quotidienne, les enluminures, les reliures. Enfin, c'est un film qui est vraiment le fruit d'un travail énorme, d'une équipe très importante hein, en termes de déco, d'accessoires, etc. Et aussi pour le scénario. Et c'est allé jusqu'à la nécessité de bâtir entièrement le décor de l'abbaye du film. Hein. Donc c'est assez énorme. Et voilà, autant dire que des projets comme ça, hein, c'est assez certain qu'il n'en existera plus, hein, en raison du coût, du temps. Et puis il y a le numérique hein, maintenant. Alors Haneau est pas réfractaire au numérique. Hein, il a fait plusieurs expérimentations dans le domaine. Mais c'est vrai que pour lui, voilà, il a vraiment envie d'opter pour de l'authentique, du vrai, du dur. Ne serait-ce que pour le travail avec ses acteurs. Quoi. C'est vrai qu'il rechigne à vouloir faire jouer ses acteurs devant des fonds verts. Pour accéder à voilà, une certaine vérité. Et effectivement, c'est vrai que jouer devant un fond vert, ça ne doit pas être très, très excitant. Et on peut se dire que l'acteur ne sera pas à fond.
Oui, je crois. D'ailleurs, je reviens sur le décor. C'est le plus grand décor construit après celui qu'il avait été sur le film Cléopâtre de Mankiewicz à Rome. À Cinecittà, donc c'est quand même énorme, un projet énorme.
Ouais, c'est quand vous voyez le film, c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Oui. Ah oui. Alors parlons du casting maintenant.
Et oui, bon, comme tout bon réalisateur, Haneau accorde évidemment une importance particulière au casting, qui est là en l'occurrence particulièrement cosmopolite. Hein. Pour la France, on retrouve l'insondable Michael Lonsdale. Hein. Outre-Atlantique, nous avons les Américains Ron Perlman, Murray Abraham, hein. Rappelez-vous, c'était le Salieri d'Amadeus de Miloš Forman. Ou encore Christian Slater, hein, dans un de ses tout premiers rôles, hein, qui interprète Hatso, le jeune apprenti. Nous avons une Chilienne, Valentina Vargas, qui interprète la villageoise qui séduit l'apprenti, justement. Et retour sur le continent européen, vous retrouverez pêle-mêle des Autrichiens, des Russes, des Allemands, des Suisses, des Italiens, j'en passe. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment, Sean Connery. Excellent hein, dans son interprétation de William de Baskerville, hein, en anglais dans le texte. Et un personnage hein, taillé sur mesure. Hein. Et pourtant, ce n'était pas gagné du tout, hein, comme le rappelait Jean-Jacques Haneau, toujours dans cette intervention au cinéma Le Champeau à Paris en février 2024.
Dans un film où il faut garder le mystère, ça distord. Ouais. Et c'est pour ça que je ne voulais pas Sean Connery au départ. C'est déjà Guillaume d'Ockham, un théologien médiéval, et Sherlock Holmes. Si je rajoute le niveau 007, ça ne le fait pas. Je ne vous dis pas... Quand j'ai annoncé à Umberto que je prenais Sean Connery, oh là là, je me dis, ça ne va pas le faire, ça. Et à ce docte sémioticien, je lui dis Sean Connery. Ah, mais non, c'est pas vrai, il se tourne vers sa femme. Renate, tu sais quoi? Mais quoi? Il a pris Sean Connery pour le... Ah, Renate, mon Dieu, c'est un drame, etc. Quelques jours plus tard, après ces drames-là, j'ai mon agent américain qui m'appelle, qui me dit, Jean-Jacques, il parlait très bien le français, pâté chez Columbia, je deviens président de Columbia. Bon, je suis content. On file le rencontrer avec mon producteur allemand. Et il me dit dans le couloir, en français, il me dit, alors, t'as pris quelqu'un pour le rôle principal? Alors, je dis, ça va pas le faire non plus, là. Et je dis, Sean Connery. Il devient de la couleur de ma chemise. Oui, il est bien blanche. Et il me dit, non, je t'interdis de le faire. Il me parle là maintenant comme mon agent. Je t'interdis de le faire, tu vas détruire ta carrière. Et il me fait un tableau de Sean Connery, je vous dis pas. Je lui dis, mais Bob, je l'ai rencontré. Moi aussi, je ne le voulais pas. Mais il est venu me voir à Munich, le scénario sous le bras. Je te jure, il s'est assis en face de moi, il a commencé à le lire. Ce qu'il lisait, c'était la mélodie du texte que j'avais dans l'oreille.
Effectivement, il s'avère que c'était un excellent choix. Il faut ajouter enfin que... dans ce casting hétéroclite, finalement, ce qui était cher à Hanau, c'était aussi de faire des trognes à ses acteurs. Il y a eu de longues séances de maquillage. Alors, par exemple, Ron Perlman, qui joue le moine de Salvatore, n'est pas sans rappeler Quasimodo. Et je crois que Jean-Jacques Hanau se justifie en disant qu'il voulait que ces moines aussi, qui portaient finalement tous le même costume, soient très nettement identifiables. C'est la raison aussi pour laquelle ils ont tous un physique très particulier, très, très reconnaissable.
Et je voulais dire un mot sur Sean Connery, qui est un excellent choix, il est extraordinaire dans ce film. C'est quand même étonnant, on comprend évidemment qu'il ne voulait pas l'espèce de superstar 007, mais Sean Connery, après 007, avait fait plusieurs films, avec Hitchcock, avec Le Maître, qui avait quand même confirmé qu'il était bien plus que 007. C'est un excellent acteur, il est vraiment très très fort, Sean Connery. Et donc Hanau le prend, rechigne à le prendre par peur de la réputation. C'est pas du tout par peur de sa qualité. Enfin, il savait que c'était un très très bon acteur. Et c'est intéressant de voir un réalisateur qui sait qu'il a un très très bon acteur, qui fera très bien l'affaire, mais il a peur de la réputation de l'acteur.
Oui. Bon, et puis il y avait aussi, ça c'est vrai qu'on ne l'entend pas dans l'extrait, mais il voulait aussi quelqu'un de parfaitement inconnu, quoi. C'est vrai qu'il a cherché, apparemment dans les théâtres du monde entier pour trouver ce fameux acteur inconnu, mais en fait il n'a pas trouvé, et tant mieux.
Et Sean Connery, il le dit bien, s'est battu pour avoir le rôle, ce qui est quand même fou, quand même.
Oui, tout à fait. Donc finalement, Pierre, c'est un film pharaonique dans sa réalisation, mais aussi dans la multitude des genres qu'il embrasse. Alors on va peut-être en énumérer quelques-uns.
Oui, le film est pour ça, rejoint le roman, c'est pour ça c'est très très réussi, parce que c'est un mélange de genres. C'est un genre médiéval, évidemment, on est au XIVe siècle. C'est un film qui a aussi une teneur philosophique, puisqu'il y a quand même des débats, ils sont plus simplifiés que dans le roman, mais il y a des débats théologiques quand même, c'est étonnant. C'est un film policier, puisqu'il est conscient de meurtre, d'indices, une enquête est menée. Il y a aussi le film emprunte des codes du genre fantastique, clairement.
Du thriller aussi.
Du thriller, voilà. Donc on est vraiment dans un mélange de genres, ça c'est très cinématographique, ça Hanau le fait très très bien, je trouve, cet équilibre-là, il mélange tout ça. Et puis, et là c'est lié au décor, comme le disait Rémi, il a fabriqué son décor et il a mis au cœur de son décor, évidemment le cœur du film, c'est-à-dire la bibliothèque, l'immense bibliothèque. Tout à l'heure, Umberto Eco disait que c'était une de ses tentations pour le titre. Bien sûr, tout est dans la bibliothèque. Voilà, la métaphore est magnifique puisque c'est le cœur du savoir, c'est là où sont les livres, savoir autorisé ou savoir interdit, tout est là. Il y a énormément de métaphores autour de cette bibliothèque. Surtout dans sa version visuelle, c'est-à-dire que Jean-Jacques Hanau en a fait quelque chose de fabuleux à l'écran.
Oui.
Il en fait une version en trois dimensions, là, comme ça quand on voit le film, ça
alors
va dans tous les sens,
de...
c'est très très beau.
Celle de Umberto Eco n'en a que deux.
Oui, ça c'est un... si on peut... une microscopique critique, c'est une erreur d'Umberto Eco.
Il
n'y
a pas d'escalier.
Elle ne marche pas, sa bibliothèque, il y a trop de pièces... pour qu'il n'y ait pas d'escalier, voilà. Voilà. Donc la troisième dimension, qui est, j'allais dire, la troisième dimension du cinéma, et c'est magnifique à l'image, il y a plein de petites salles reliées par les escaliers qui vont dans tous les sens, donc ça c'est très, très réussi, et puis ça renvoie visuellement à d'autres œuvres, on pense à l'escalier de Penrose, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est dur à décrire à la radio, mais c'est une espèce d'escalier qui n'en finit pas, il y a évidemment une illusion d'optique, ou les lithographies de Escher, l'artiste, qui aussi en a fait beaucoup comme ça, d'escaliers où on monte, on descend dans tous les sens. C'est une espèce de version cinématographique qu'a fait Hanau.
Tout à fait.
Il y a aussi un écho chez Borges avec la bibliothèque de Babel. Borges d'ailleurs, et on peut glisser vers d'autres clins d'œil, parce qu'évidemment, Umberto Eco étant sémioticien, il y a des clins d'œil partout dans son roman. Et bien sûr, il en a gardé plusieurs à Hanau. Donc il y a beaucoup de noms de personnages qui font des clins d'œil. Évidemment, le personnage principal, Guillaume de Baskerville, Jean-Jacques Hanau le disait dans l'interview, donc ça renvoie à Conan Doyle. Donc Borges, il y a un moine qui s'appelle Jorge. Voilà. Et puis les labyrinthes renvoient à Borges aussi. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de clins d'œil comme ça qui donnent une grosse épaisseur. Et tout cela tourne dans l'idée, dans le thème, mais aussi géographiquement dans le film. Autour de la bibliothèque, fabuleuse.
Je crois me souvenir aussi que dans le film, Hanau s'amuse à rendre hommage, à faire un clin d'œil à Umberto Eco. Il est question d'un moine qui porte son nom, mais je ne sais plus lequel. Voilà, quand je reverrai le film vendredi soir, eh bien, je chercherai le nom du moine.
C'est un livre que consulte Guillaume de Baskerville. Voilà. Quand il, à un moment donné, il pénètre dans la bibliothèque, il consulte un livre qui fait complètement écho à Umberto Eco. C'est évidemment un clin d'œil amusant.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, on pourrait enfin aborder la question de la vérité historique. On a vu qu'Anneau avait fait appel à des médiévistes chevronnés comme Jacques Le Goff ou Michel Pastoureau. Et donc, il avait un souci, un désir permanent d'authenticité jusque dans les moindres détails. Alors, pourtant, Pierre, est-ce que, selon toi, enfin, selon nous, Rémi aussi, est-ce que le film donne du Moyen-Âge et de ce XIVe siècle précisément une vision conforme à ce que l'on sait de la période ?
Eh bien, je pense qu'il y a un paradoxe, puisque les historiens nous disent, que Michel Pastoureau en tête, que pour réussir à représenter à l'écran un Moyen-Âge très très crédible, les historiens eux-mêmes ont dû farfouiller pour trouver tout un tas d'informations sur la vie courante des moines qu'ils n'avaient pas en tant qu'historiens. Les questions du réalisateur ne sont pas les mêmes que les questions des historiens, donc ils ont dû fouiller, preuve qu'Anneau a voulu faire quelque chose d'extrêmement ressemblant à la réalité. Et à côté de ça, il donne une... Il véhicule des clichés sur la période, sur le Moyen-Âge. Donc là, il nous montre des moines obscurantistes. Les paysans, c'est vraiment du misérabilisme. Il y a certains anachronismes, puisque l'Inquisition qui va mettre sur le bûcher les hérétiques.
Et les sorcières.
C'est plus tardif, c'est pas au début du XIVe siècle. Donc c'est un petit peu surprenant. Et ça donne cette image obscurantiste aussi, parce que, enfin, en deux mots, sans faire un cours d'histoire, les bénédictins au début du XIVe siècle, enfin, le début du XIVe siècle, comment dire, on sort du bas Moyen-Âge qui est souvent, l'image qu'on en a est une image assez barbare ou sombre en termes de connaissances et de savoir. Et la seule petite lumière vacillante du savoir qu'il y a en France et en Europe, c'est dans les monastères à cette époque-là. Je crois qu'il y a 1% de la population qui sait écrire. Donc évidemment, 1%, c'est quasiment qu'il y a des moines. Et par exemple, un monastère comme Cluny, qui est le cœur de l'ordre bénédictin, va essaimer des monastères partout en France. Enfin, il y a plus d'un millier de monastères. Donc au contraire, ils vont servir à entretenir la flamme du savoir et puis ensuite à la développer. Ce n'est pas du tout l'image qu'on a quand on voit le film. Donc là, il y a une espèce d'étonnante contradiction entre une très très grande rigueur dans la reconstitution à l'image et puis une espèce de cliché sur cette période noire et l'Église qui est obscurantiste et inquisitrice.
Cela dit, ces clichés sur le Moyen-Âge, on les retrouve dans d'autres films sur la période.
Tout à fait. Mais d'autres films qui n'ont pas forcément le même effort de reconstitution qu'a eu Anneau en consultant des médiévistes, en allant vraiment faire un travail incroyable.
Oui. Alors pourquoi finalement ça veut dire qu'Anneau nous raconte autre chose finalement son...
Alors, en tout cas, c'est ce qu'expliquent les historiens qui disent qu'Anneau a privilégié un propos historique, politique, pardon, plutôt que d'en rester dans ce qu'on sait de l'histoire, il en a mis un propos politique avec des fractures entre les moines qui sont vraiment riches et puis les paysans qui sont vraiment pauvres. Il y a une espèce de mise en scène de lutte des classes sur le retour. Là.
Oui, tout à l'heure, il parlait de la lutte entre les socialistes et les capitalistes.
Oui, c'est ça. Même dans son discours, ça revient. Donc, il y a quand même une version un petit peu politique, alors qu'on pourrait penser que quand on parle du XIVe siècle, des moines, enfin, fond d'Italie, on n'est pas dans ces histoires. Alors, Anneau le remet. Alors, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est le réalisateur, il n'y a pas de problème.
Oui.
Mais effectivement, là, on voit... arriver quelque chose qui n'est pas le sujet, par exemple, du tout, du roman.
Il y a une dernière raison, évidemment, qu'on peut avancer, c'est que tout simplement, le cinéma fait nécessairement œuvre de vulgarisation, de simplification. Finalement, le cinéma n'est pas tenu à une quelconque vérité historique.
Ah non, bien sûr, il fait ce qu'il veut en tant que réalisateur.
Voilà.
Mais voilà, une petite contradiction entre une volonté de réalisme à l'image et un discours politique qui ne s'appuie pas sur les mêmes ressorts historiques.
Oui, et puis il y a aussi, après, pour créer de la dramaturgie, pour créer du suspense.
Bien sûr.
Et j'en reviens là à la création des décors. C'est vrai qu'il y avait vraiment aussi à cœur de plonger les acteurs aussi dans un environnement crédible, mais aussi dans des habitudes crédibles.
Oui, il a mis le feu au décor.
Oui, aussi, notamment. Ouais. Et donc, c'est vrai que... Enfin, voilà, tout cet effort dans les décors, mais aussi dans le souci de faire agir les acteurs, c'est aussi pour la
comme exemple de détail, il expliquait, Michel Pastoureau expliquait que Jean-Jacques Anneau voulait savoir dans la vie du moine quand est-ce qu'ils mettaient leur capuche ou pas, quoi. Et ils ont eu bien du mal à répondre à cette question, les historiens, parce que c'est pas évident. Oui. Ce qui semble évident à l'époque, les moines le savaient, c'est pas retranscrit, c'est pas écrit, donc c'est une question simple à laquelle la réponse a été très, très complexe.
Bien. Eh bien, je pense que nous sommes fin prêts maintenant, prêts pour cela.
Thank you.
Rémi, pas de cinézoom sans kinozoom.
Donc maintenant vous connaissez l'association Kinozoom et bah, si vous souhaitez voilà, nous soutenir, bah, vous pouvez adhérer à l'association donc en vous rendant sur notre site hein, kinozoom.com ou sur le site Eloasso voilà, où Kinozoom a une page dédiée et où vous pourrez voilà, devenir adhérent. Je rappelle voilà, un petit peu les prochains rendez-vous justement de l'association. Alors nous avons une assemblée générale hein, qui va se tenir le 5 octobre prochain à 11h au cinéma Le Renaissance. Voilà, on fera un peu le bilan des actions de la saison précédente, le bilan financier aussi et puis un petit peu les perspectives. Parmi les perspectives, bah, y a le prochain festival du film dont je rappelle les dates de la 13e édition du 16 au 23 mars 2025. Également pas mal d'ateliers hein, en milieu scolaire, à la maison d'arrêt. Voilà, on a pas mal de choses en son chantier, voilà, on va réaliser pas mal de petits films. Et d'ailleurs, hein, si vous êtes intéressé voilà, en tant que structure ou établissement scolaire, vous pouvez contacter l'association pour mettre en place des ateliers de création de films voilà, plus ou moins longs dans vos structures. Et donc, si vous voulez avoir toutes les infos de l'association, eh ben, je vous invite à nouveau à consulter le site de l'association, kinozoom.com, ainsi que nos pages de réseaux sociaux, Instagram et Facebook.
Et enfin, notre quiz musical, Pierre.
Oui, je vous rappelle le principe de l'émission, c'est que nous vous proposons une musique de film. Et puis, si vous avez son titre, vous contactez Dig Radio et vous avez des places de cinéma à gagner. Et la dernière émission, c'était en juin, donc nous vous avions proposé la chanson The Boxer de Simon & Garfunkel, qui fait partie du film Intolérable cruauté des frères Cohen. Voilà, et donc nous vous proposons la musique qui va suivre. Si vous l'avez, si vous la reconnaissez, eh bien vous contactez Dig Radio. C'est parti.
Ah oui, sachant que il s'agit évidemment d'un film de la programmation du Ciné-Club. On change de tonalité, c'est sûr. Vous avez le titre du film et le nom du chanteur. Il suffit de vous connecter au site de Dig Radio Sud Vendée et de laisser un message car il y a des places de cinéma à gagner. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Merci Rémi.
Merci Françoise.
Merci Pierre.
Merci Françoise.
On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Début octobre, on part à Rome. À très vite, au cinéma et sur les ondes de Dig Radio.
celle-là.